Merci de tourner dans vos Bibles en Jean chapitre 7, s'il vous plaît. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait point parcourir la Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Donc, n'oublions pas cette scène tragique, c'est que, comme ça a été annoncé dans l'introduction de ce livre, que la lumière est venue dans le monde et les gens ne l'ont pas reçue, tout simplement. Et c'est exactement ce qui vient de se passer. Il est venu ses siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Et c'est assez tragique parce que, quand même, on parle des chefs religieux. S'il y avait une population qui devait quand même reconnaître le Messie, c'est eux. Et c'est à cause de ces gens-là qui occupent des places importantes en Jérusalem que Jésus est obligé à ne pas entrer en Judée. Et il paraît que même ils embauchent des gens pour faire l'espion, pour le repérer, puis ils veulent aussi l'arrêter à tout prix. Et donc, on imagine que Jésus est averti par le Saint-Esprit, parce qu'il n'y avait pas des gros moyens de communication à l'époque. Et donc, s'il était au courant de ça, c'est parce que le Saint-Esprit l'avait averti. Et donc, il se retire. De toute façon, il y avait tellement de travail à faire. Mais il était obligé quand même d'éviter Jérusalem. Et quelle tristesse. Le Messie, tant attendu pendant des siècles, empêché d'aller à Jérusalem. Et le savez-vous que Jésus n'a passé, d'après ce qu'on connaît, il n'a passé qu'une seule nuit à Jérusalem, nuit entière, à part quand il était jeune et il a passé quelques nuits à Jérusalem. Et cette nuit qu'il a passée à Jérusalem, c'était la nuit de sa crucifixion. Et pourtant, c'est dans une telle circonstance que maintenant Jésus doit circuler vers le ministère pour lequel il est envoyé. Mais il n'est pas question quand même qu'il se rend précocement, parce qu'il n'est pas question que le Messie ne meure avant l'heure. Or, verset 2, la fête des Juifs, celle des huttes, ou bien les tabernacles, était proche. Ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que les disciples contemplent aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à se mettre en évidence. Et si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. » En effet, les frères non plus ne croyaient pas en lui. Alors, quand on dit frère, ce n'est pas frère de sens compatriote. Là, on parle des frères, au moins des demi-frères de Jésus, parce que Jésus, il est né de Marie, mais Joseph n'est pas le vrai père, parce qu'il est incarné. Par contre, ça nous montre une chose, parce qu'il n'est jamais question, ou la Bible ne fait aucune mention de Joseph qui prend notre femme, ou tout. Alors, ça nous laisse avec la seule conclusion que Jésus, en réalité, il avait des demi-frères que Marie et Joseph ont eu des relations normales de mariage après la naissance de Jésus. Et pour preuve que ce sont des vrais frères, on a que regarder ce qu'ils disent. Ça, c'est le dialogue ou la conversation des frères. On peut très bien imaginer Jésus, qui n'a jamais rien fait de mauvais, à quel point, surtout pour des frères qui sont dans le naturel, qui sont dans la chair charnelle, qu'ils méprisent le fait que Jésus soit aussi parfait. Et du coup, ça ne suffit pas qu'il est parfait en tout ce qu'il fait, mais que maintenant il commence à prêcher. Et donc il y a un nom qui est créé. Et comme Jésus a dit lui-même qu'il n'est pas venu pour donner la paix, mais porter une épée pour provoquer la division, même dans les familles, ça a un double sens. Oui, la famille est connue, mais certainement les gens parlent comme peut-être ils ont parlé depuis toujours. Et ça revient vers eux. Eux qui, selon ce verset, ne sont pas tout à fait convaincus eux-mêmes, la tâche devient de plus en plus lourde à porter. Et donc là, on peut très bien imaginer les frères qui en ont assez. Et là, ils disent, mais ok, ils provoquent Jésus un petit peu. Ils disent, mais d'accord, c'est la fête, alors vas-y, montre-toi comme le grand chef que tu es. Alors vas-y, fais quelque chose. Aussi, il entre dans le discours des chefs qui disent, fais un grand miracle. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que les frères de Jésus, même s'ils prennent cette position dans le ministère, il est même question, assez bizarrement, en Marc chapitre 3, que les frères de Jésus et sa mère pensent que Jésus est hors de lui-même et il vient pour l'amener chez eux, en fait pour le restreindre parce qu'ils pensent qu'il est devenu fou, tout simplement. Donc ils le doutent à ce point-là. Et ce qui est vraiment beau, je trouve, dans toute cette histoire, c'est que, avec un tel commencement, ces gens-là sont avec Jésus, sont avec les autres disciples en Actes chapitre 1 et en Actes chapitre 2 quand le Saint-Esprit vient. C'est-à-dire que, quand Jésus est ressuscité, il y avait eu quelque chose qui a changé. Peut-être c'était même la crucifixion qui a commencé la réflexion pour le mettre dans un contexte peut-être moderne. Dieu a quand même utilisé une tragédie familiale pour conduire les gens à la foi en Christ finalement. Et nous voyons que même dans la famille de Jésus, que les gens qui ont entendu, et peut-être le fait qu'ils étaient si proches, qu'ils étaient charnels, a fait en sorte que leurs oreilles ont été bouchées par l'incrédulité, que Dieu a conduit les choses parfaitement pour que ces gens-là, suite à une tragédie familiale, donc la crucifixion de Christ, et puis par la puissance de la résurrection, ils sont arrivés à la foi, finalement. Et ça nous donne beaucoup d'espoir, surtout pour la famille qui ne croit pas. Surtout parce que quand les choses difficiles arrivent, la première réaction est l'alarme, le choc. Mais si nous reculons, nous pouvons voir, au moins dans cet petit exemple, que Dieu peut changer le mal en bien. Et avec tragédie, entre guillemets, Dieu peut conduire les gens à la foi. Donc, pour nous donner de l'espoir, pour continuer à prier, parce qu'il y a toujours espoir pour nos proches, c'est possible et Dieu peut utiliser toutes choses. Alors, pour revenir, par contre, Jésus, il leur dit, parce que lui, bien sûr, il n'est pas dupe. Il dit, le moment n'est pas encore venu pour moi, mais pour vous, le moment est toujours opportun. Le monde ne peut vous haïr. Il a de la haine pour moi, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à la fête. Moi, je ne monte pas encore à la fête, parce que le moment pour moi n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il reste en Galilée. Et quand ses frères furent montés à la fête, alors il y monta aussi lui-même, mais non pas de façon manifeste, mais comme en secret. Alors, j'aime bien la réponse de Jésus. C'est tellement franche. C'est un petit peu la mentalité du monde. Eux, ils disent, bah, c'est vraiment le moment. La fête des tabernacles, c'est une fête très importante. Alors, c'est le moment. Allez, il le faut. Il faut aller devant. Mais ce que nous voyons, c'est que, en fait, Jésus, il suit parfaitement le timing du Père. Comme il a dit, je ne fais rien de moi-même, mais tout ce que je vois chez le Père, je le fais. Donc il y avait une communication si intime et précise qu'il savait même quand c'est l'heure d'y aller ou pas. Et ça nous ouvre tout un autre problème. C'est que nous qui sommes des enfants de Dieu, qui sommes dans la foi, il peut avoir des moments où nous sommes tentés à écouter la bonne sagesse du monde, avec une sagesse tout à fait mondaine. Parce que le monde, il sait comment les choses marchent dans le monde, et il y a un certain savoir-faire dans le monde pour faire réussir ses projets. Effectivement, d'une optique mondaine, si quelqu'un veut vraiment voler sur le haut de la popularité, il faut qu'il soit avant tous les autres à la fête et qu'il commence à vraiment promouvoir son mouvement. Or, Dieu n'a pas du tout besoin de tout ça. Dieu, il peut faire tout ce qu'il veut dans son timing. Il n'a pas besoin des petites raccourcis humains ou des petites tours humains. Et je crois que pour l'Église et pour les chrétiens, quand on reçoit souvent des conseils peut-être bien intentionnés de la part de la famille ou des proches ou des gens qui nous aiment tout simplement, qui nous respectent, mais qui ne sont pas dans la foi, il faut faire attention parce que même que cette conseil peut être bien intentionné, ça peut être hors de la volonté de Dieu, et même en contradiction avec la volonté de Dieu. Et même si c'est sage aux yeux du monde, peut-être Dieu, dans une telle situation, veut justement renverser la sagesse du monde avec la folie de Dieu. Et en ce cas-là, ça serait la chose la pire de faire, c'est de suivre le conseil du monde. Donc, parfois, il faut s'en méfier. Il faut, bien sûr, mettre toutes choses donc, devant le Seigneur. Et c'est ce que Jésus nous montre par ses actions. Ce n'est pas qu'il manque de respect, mais il leur explique aussi une chose qui est vraie. C'est que, en tant que lumière du monde, il dérange les gens qui préfèrent les ténèbres. Et comme ça dérange, et comme ces gens-là sont justement à la recherche de Jésus, tellement ils sont dérangés par son message, s'il avait suivi ce conseil, il va entrer pile dans le piège pour mourir avant l'heure. Et ça serait la pire des choses. Et donc, il attend. Alors, à Jérusalem, verset 11, les Juifs le cherchaient pendant la fête. Ils disaient, où est-il? Justement, ils attendaient, ils étaient prêts. Et il y avait dans la foule beaucoup de murmures à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. Les autres disaient, non, au contraire, il égare la foule. Personne toutefois ne parlait ouvertement de lui par la crainte des Juifs. Quelqu'un a comparé cette attitude maintenant qu'ils ont, ils chuchotent entre eux, un petit peu comme la police secrète des pays ultra-communistes, où il est tout à fait interdit de penser différemment que les autorités. C'est exactement ce qui se passe. Imaginons, les gens, ils ont peur de dire ouvertement. Alors, qu'est-ce qui se passe quand les gens, ils ont peur de dire ouvertement? Ben, ils parlent en secret. et peut-être ils en parlent plus. Et ce qui est formidable dans cette situation, c'est que ce que Satan a voulu pour supprimer l'influence de Jésus, en fait, ça ne fait que l'inverse. Tout le monde en parle, parce que tout le monde est intéressé, parce que la seule chose qu'on ne veut pas dire, ben, c'est la chose que tout le monde dit quand personne n'écoute. Enfin, ils sont à la recherche de Jésus. Il attend. Alors, verset 14. On était déjà au milieu de la fête quand Jésus monta au temple et il enseignait. Et les Juifs, étonnés, ils disaient, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié ?» Il faut l'imaginer parce que c'est presque comique. Là, ils attendent. Il y avait certainement la police secrète et tout. Ils sont là, ils attendent. Puis un jour, deux jours, trois jours passent, rien. Et puis, un jour, en plein milieu de la fête, peut-être ils ont même perdu l'espoir, peut-être ils pensent, ok, ils vont passer aussi cette fête en Galilée comme l'autre. Et puis, comme si rien n'était, Jésus, il marche et il entre dans le temple. Il commence à enseigner. Et puis son enseignement est tellement puissant parce que c'est rempli par le Saint-Esprit que les gens sont bouche bée, ils sont tellement étonnés que tout le monde est là, il l'écoute, et c'est frappant. Et c'est tellement frappant son enseignement que même les chefs n'arrivent pas à comprendre comment celui-ci puisse enseigner comme ça. Alors, Jésus, comme il est Dieu, il a certainement entendu, il savait ce qui se passe. On peut très bien imaginer. Enfin, moi, je l'imagine quelque part qui sourit aussi parce que s'il entre comme ça, il faut savoir que dans le monde spirituel, comme nous savons que les anges, en fait, sont au service de ceux qui sont appelés, donc selon Hébreux chapitre 1. Donc, certainement, il y avait des anges qui l'accompagnaient, qui l'ont protégé. Il arrive parce que c'est pas le temps qu'il meurt. Il est parfaitement dans la volonté de Dieu. Donc, avec une calme parfaite, il ne cache rien. Il enseigne à haute voix. Et puis, il y a cette merveilleuse moisson là, et les gens les entendent. Alors, comment est-ce qu'il a enseigné? Probablement, il a enseigné comme on a sur le sermon sur la montagne, ou bien, il est aussi probable, puisqu'on parle de quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, alors qu'il n'a pas étudié, on peut très bien imaginer qu'il faisait comme Esdras, et il lisait l'écriture et il expliquait, un peu comme ça. Il expliquait ligne par ligne ce que ça veut dire réellement, mais sans passer par rabbin un tel ou un autre rabbin ou le Talmud ou non, il parlait avec la puissance de Dieu. Et donc Jésus, il répond à leur question. Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. De celui qui m'a envoyé. Et il pose la question, bah, qui t'a envoyé? Alors il répond à cette question aussi. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si cet enseignement vient de Dieu ou si mes paroles viennent de moi-même. Celui donc, les paroles viennent de lui-même, cherche sa propre gloire. Celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai. Il n'y a pas d'injustice en lui. Moïse, ne vous est-il pas donné la loi? Alors, premier test, c'est que si je cherchais ma gloire, ma propre gloire, donc ça serait mon enseignement. Donc je vous renverrai pas vers un autre, mais je ferai en sorte que toute la gloire me revienne. C'est moi qui le dis parce que je suis un très bon enseignant. Ben, oui, il est un très bon enseignant, mais il a l'habitude de toujours renvoyer la gloire vers Dieu le Père. Donc, il se présente en tant qu'envoyé de serviteur, bien qu'il soit le fils. Et donc, sachant ceci, il donne un exemple même de Moïse. Parce que Qu'est-ce que Moïse a dit? Toute parole qui venait de Dieu. Moïse, il montait sur la montagne et Dieu lui a donné toute la loi. Moïse, il copie la loi, il écrit et il descend dans la montagne, il dit aux gens. Quand il y avait une question, Moïse n'a jamais fait semblant de savoir quelque chose. Il est retiré systématiquement, il priait jusqu'à ce qu'il ait une réponse. Et puis il le donne au peuple. Donc Moïse était un serviteur fidèle dans ce sens-là. Et Jésus, il fait exactement la même chose, dans cette même manière. Donc, et c'est pour ça qu'il y avait une puissance surnaturelle. Donc encore pour rentrer dans cette réflexion qu'on a fait tout à l'heure, spirituelle, sans que personne ne le voit, il y avait des heures et des heures de prière entre Jésus et le Père. Mais là, on peut imaginer, il lit le rouleau et il parle, mais le Père lui dicte exactement ce qu'il doit dire par le Saint-Esprit. Jésus prononce les paroles. Et encore, par le Saint-Esprit, ça frappe les gens. Et c'est puissant, parce qu'il n'invente rien du tout, mais ça vient d'en haut et c'est parfaitement pointu, percutant, pour bouleverser tout le monde. Donc il n'a pas besoin de citer un tel ou un autre, parce que ça vient de Dieu. Et ce que nous voyons est un très bon exemple. Comment faire le ministère? Alors, nous, c'est vrai, nous avons besoin des commentaires parce que nous sommes pêcheurs et on n'a pas, malheureusement, j'aimerais bien avoir ça, mais je suis tellement pêcheur que non, j'y suis pas. Mais ça nous donne un bel exemple. Le vrai ministère. Ça commence dans la prière, la purification et la parole. Le plus de temps et n'importe quel ministère, ça marche de la même manière. Tous les ministères, ça marche de la même manière, quel que soit le ministère. C'est né dans la prière. C'est pas que ce que je veux faire, mais c'est le Seigneur qui dirige la personne. Ensuite, c'est la parole. Donc, qui nous nourrit. Avec la prière, la parole, ça nous nourrit, ça nous fortifie. Et puis, avec les autres enseignements aussi, avec les encouragements dans l'église et des autres choses, bon, oui, ça donne tout ce qui est nécessaire pour que ça continue. Mais les bases sont les mêmes. La parole, la prière. Alors, verset 19, parce que ils n'ont pas suivi, justement, la parole. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul de vous pratique la loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu es un démon. Qui cherche à te faire mourir? Notez comment il ment. Tout le monde savait que c'était dangereux pour Jésus d'y aller et maintenant il ment comme si rien n'était. Alors Jésus, il revient au problème, à la source. Il leur répondit, ben, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vient de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme pendant le sabbat. Si un homme reçoit la circoncision pendant le sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi? Parce que j'ai rendu à la sainteté un homme tout entier pendant le sabbat. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon un juste jugement. Donc il revient à ce qui a provoqué tout ça, parce que on l'a lu. Il y a quelques semaines, Jésus a osé guérir un homme le jour du sabbat et lui a demandé de porter son lit. Et ça, c'était trop. Il ne supportait pas. Et du coup, il voulait le tuer. Et c'est intéressant parce que Jésus renvoie Moïse à eux, à sa défense. D'abord, il cite les 10 commandements. Ne tue pas. Eh ben oui, là, ils sont en train, justement, de comploter contre lui pour le tuer. Donc, ils brisent les commandements. Et si ce n'était pas assez, il emploie un autre exemple. L'exemple tout simple de la circoncision. La circoncision qui ne fait rien du tout à la santé du garçon. Eh bien, en fait, justement, c'est assez douloureux pour le petit garçon. Alors, si on a la possibilité, pour garder la loi, de briser le sabbat et faire un travail qui porte la douleur, est-ce qu'il est une chose trop extraordinaire pour apporter la vie et la guérison? C'est un argument absolument parfait. Donc, c'est une belle comparaison que Jésus fait entre la loi et l'esprit de la loi. Et comment garder l'esprit de la loi et ainsi accomplir la loi? Et la réponse, c'est l'amour et la miséricorde. En Jacques chapitre 2, verset 13, nous lisons, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Ou c'est la triomphe du jugement. Quand on fait miséricorde, le jugement sans miséricorde, si on est tellement légaliste ou tellement animé d'un esprit de vengeance ou de rancune ou un esprit autre que Dieu, finalement, de rivalité, qu'on applique la loi dans une justice, peut-être à la lettre, mais sans miséricorde, qu'est-ce qu'on attend que ça revienne à nous, finalement? Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que nous appliquions la miséricorde qu'on veut pour nous-mêmes. Parce que quand il s'agit du jugement, on veut toujours que les gens apprécient bien nos motivations ou tiennent en compte nos motivations ou nos bonnes intentions plus que le résultat. Et donc, si c'est ça ce que nous voulons, donc il faut plutôt faire le même pour les autres. Il faut attendre et voir quelles étaient les motivations, quelles étaient leurs intentions, avant vraiment de juger le résultat, le fruit du cœur, la miséricorde. C'est ça ce qui fait à Dieu et c'est ça ce qui manquait chez ces gens. Alors notez bien la confusion. Les gens, ils sont tellement perplexes par rapport à Jésus. Alors, quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas celui qu'on cherche à le faire mourir? Et voici qu'il parle ouvertement. Et on ne lui dit rien. Est-ce que les chefs auraient vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Alors Jésus s'écria, tandis qu'il enseignait dans le temple, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Pourtant, je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je suis là, de sa part, et c'est lui qui m'a envoyé. Il cherchait donc à l'arrêter. Et personne ne porta la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Alors, comme il enseignait et son enseignement était tellement frappant, les gens commençaient à croire que peut-être c'est bien lui et que même c'est reconnu, même secrètement. Et c'est normal. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que son enseignement est tellement puissant et animé par le Saint-Esprit que les gens étaient empêchés. Rappelons que l'évangile selon Jean est l'évangile par excellence qui nous montre la divinité de Christ. Donc il y a cette dimension divine qui intervient et qui met les gens à leur place et qui empêche qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Et donc, comme il est Dieu, il lit dans leurs pensées, il répond à ces questions. Et justement, cette question nous paraît bizarre si on y réfléchit. Qu'est-ce qu'ils disent? On sait où il vient. Et pourquoi ils disent? Parce que, je vous l'explique, à cette époque, il y avait certains qui ont pris deux ou trois prophéties, notamment Malachie chapitre 3, verset 1, et ont tiré de son contexte pour dire que, en fait, le Messie, quand il vient, il sera Dieu, mais il ne serait pas un homme, mais il va apparaître du coup comme ça, comme s'il apparaît. Et donc voilà le verset majeur qu'il prend pour leur côté. Ils disent, voici, j'enverrai mon messager. Il ouvrira un chemin devant moi et soudain entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez, voici qui vient, dit l'Éternel des armées. Alors ça, sans tenir compte de tous les autres versets qu'il parle. Par exemple, en Ésaïe 9, qui parle d'un enfant qui nous est né, ou lorsqu'on parle de Bethléem, où il doit être né aussi. Et il se base sur deux, trois versets pour créer toute une doctrine. Et ça, c'est pourquoi on ne peut pas baser toute une doctrine sur des versets qui sont tirés hors de leur contexte. Et non, c'est impossible. Et ça porte la confusion. Alors, ce qui me frappe avec Jésus, il essaie quand même à les amener à la vérité. Donc, il dit, oui, vous savez d'où je suis venu. Il n'a pas dit, bah, vous êtes vraiment ignorant, vous, parce qu'il fallait que vous alliez en Ésaïe et que vous regardiez ces versets. Parce que non, il parle au peuple. Les gens qui n'ont pas aussi bien instruit. Alors, il dit oui, vous savez d'où je suis venu. Mais, moi, je suis d'en haut. Et oui, je suis Dieu, en fait. C'est là quand il dit, je connais qui m'a envoyé. Et c'est pour ça aussi que quand les gens ont compris qui se fait Dieu, à leurs yeux, ils veulent le tuer. Parce que, comme ils n'ont pas encore compris, se proclamer Dieu égale blasphème. Et donc, du coup, ils veulent le tuer comme ça. Donc, eux, ils ont compris. Ce que Jésus dit, il dit, oui, vous savez d'où je suis, mais je suis toujours Dieu. Et je connais d'où je suis venu. Mais, évidemment, vous ne le connaissez pas. Et puis, ils ont prouvé que sa parole est vraie, puisqu'ils commencent à ramasser des pierres pour le lapider. Mais son temps encore n'est pas venu. Et nous voyons la main de Dieu, là, qui le protège au moment même. Alors plusieurs parmi la foule crurent en lui. Ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en fait celui-ci? Et ça nous montre que ces gens-là qui avaient bien compris que la foi et la raison et le raisonnement ne doivent pas être en contradiction, mais on peut très bien raisonner et être très intelligent tout en ayant la foi. Parce que ces gens-là, ils réfléchissent et en réfléchissant, ils arrivent à croire et à croire réellement. Donc ils croient en Christ. Mais les pharisiens entendirent ce que la foule murmurait à son sujet. Alors les principaux sacrificateurs, les pharisiens, envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Donc là, ils n'en peuvent plus. C'est intéressant qu'ils n'essaient plus à le contredire. Là, ils envoient directement les gardes. Les gardes qui, à l'époque, ce n'étaient pas des Romains. En fait, ce sont des Lévites qui travaillent dans le temple, qui sont chargés de ça, de garder la paix. Parce que le temple de Jérusalem avait une tour dans le côté qui était gardé par les Romains. Les Romains se mettaient dans cette tour, ils veillaient sur tout ce qui se passe à l'intérieur du temple. S'il y avait une violente manifestation, alors les Romains viennent. Alors pour empêcher la désécration du lieu saint, les chefs religieux embauchent justement ces lévites pour garder la paix, pour qu'il n'y ait plus besoin de ces Romains. Et donc, c'est ça ce qu'ils font. Alors verset 33, Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et là où je serai, vous ne pouvez venir. » Les Juifs dirent entre eux, « Où va-t-il se rendre pour que nous ne le trouvions pas? Va-t-il se rendre parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseigner les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite, « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et là où je serai, vous ne pouvez venir. » Alors le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et il dit cela de l'Esprit qui allait recevoir ceux qui croyaient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, dès que les gardes sont envoyés, Jésus commence à parler de ce qui va se passer après la résurrection. Et ça nous amène même au grand jour de la fête, quand il prophétise sur ce qui allait se passer avec le Saint-Esprit. Et ce qui est intéressant, c'est que les chefs, les pharisiens, ils se moquent de lui en disant, est-ce qu'il va enseigner les Grecs comme si c'était un truc absurde, enseigner les Grecs. Mais notez bien à quel point l'incrédulité peut enfermer les gens, puisse même dire la vérité sans le savoir, ils prophétisent même contre eux-mêmes. Parce que quand Jésus, finalement, est ressuscité et glorifié, monté aux cieux, qu'est-ce qui s'est passé? Ces mêmes chefs religieux ont essayé à tout prix d'arrêter les disciples. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas arrêter par la puissance du Saint-Esprit dans l'Église qui a contrecarré tous les efforts humains. Et finalement, Jésus a touché finalement les Grecs. Et tragiquement, beaucoup parmi la nation Israël ont été exclus du royaume à cause de l'incrédulité. Passage très prophétique. Jésus explique, et eux aussi, ils expliquent comment finalement les choses se sont passées après. Alors les gens de la foule, après avoir entendu ces paroles, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » Et d'autres disaient, « Celui-ci est le Christ. » Et d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem, d'où était David, que le Christ doit venir ?» Il y eut donc à cause de lui des divisions parmi la foule, et quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne portait les mains sur lui. Alors, pour revenir à cette question de ses origines, là on voit qu'ils étaient même ignorants de ses origines. Il est justement né à Bethléem. Ça montre aussi que les préjugés qu'il portait contre ceux qui sont du nord l'ont aveuglé. À l'époque, les gens de Judée étaient ceux qui connaissaient le mieux l'Écriture. Et ils considéraient que tous les gens du Nord, donc du Galilée, étaient des ignorants et qu'ils étaient des grands pêcheurs et qu'ils ne connaissaient rien du tout. Alors, en disant est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? C'est intéressant qu'ils ne disent rien sur Nazareth. Parce que Nazareth, en fait, était une colonie des Bethlémites. Donc les gens de Judée qui sont transportés au nord, dans la région galiléenne, à Nazareth. En fait, le mot Nazareth veut dire branche. Parce que Nazareth, donc, était une branche de Judée, des gens de Bethléem. Ça, c'est pourquoi Joseph, qui se trouvait à Nazareth, il descendait direct à Bethléem. C'est normal, puisque l'origine de Nazareth se trouve à Bethléem. Et nous connaissons l'histoire de comment Joseph, finalement, entre à temps à Bethléem pour que Jésus soit né là-bas. Mais les préjugés, les idées bien faites d'avance, sont un grand obstacle. Comme c'est un grand obstacle souvent à l'amour entre les gens, c'est aussi un grand obstacle face à la foi. Donc il faut qu'il y ait une autorité. Et l'autorité, c'est la parole de Dieu. Et quand mes idées sont en contradiction avec la parole de Dieu, c'est là où il faut qu'il y ait une confrontation, mais il faut qu'il y ait une autorité. Ici, je suis vraiment soumis à l'autorité de Christ. C'est là où je dois résoudre mon problème en acceptant ce que dit la parole. En demandant, bien sûr, que le Saint-Esprit m'enseigne et m'éclaire là-dessus. Mais il faut finalement que j'accepte ce que dit la parole si je suis vraiment soumis. Sinon, c'est l'inverse. C'est moi qui me mets au-dessus de l'autorité biblique. Eh bien, ça c'est tout à fait autre chose. Et ce n'est pas vraiment la foi si je me mets à l'autorité de la parole. Là, nous arrivons à un de mes scènes préférées de toute la Bible. Il y avait ces gardes qui ont été envoyés. Les gardes retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens qui leur dirent: « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? » Les gardes répondirent: « Jamais homme n'a parlé comme parle cet homme. » C'est la puissance de Dieu. C'est-à-dire que c'est lévite encore. Donc ce sont des gens qui ont des connaissances bibliques. Quand ils ont entendu l'enseignement de Jésus, ils ont vite oublié. Et peut-être, ils ont oublié pendant tout l'enseignement, ils étaient collés à chaque parole qu'ils disaient. Et on peut très bien imaginer qu'ils apprennent: ah ben oui, c'est vrai. Ah ben oui, ah oui, ça c'est vrai aussi. Et ils apprennent des choses, ils sont là-dedans, ils suivent chaque parole qu'il dit. Et puis, Jésus termine son enseignement, ils partent. Et puis, ils se disent: oh zut! Je t'ai envoyé pour l'arrêter. Et puis ils discutent entre eux. Ils disent: mais peut-être que ces Parisiens, ils sont pas encore, enfin, peut-être qu'ils connaissent pas. Et puis ils sont quelque part émerveillés. Peut-être ils ont même honte. Et puis ils trouvent juste de dire: mais quand même, est-ce que vous avez entendu ce qu'ils disent? Personne n'a jamais parlé comme cet homme. Notez bien, ils n'ont pas essayé de le tuer pour blasphème. S'ils disent personne n'a jamais parlé comme cet homme, c'est parce que quelque chose sonnait vrai. Ils ont entendu la parole prêchée comme ils n'ont jamais entendu avant. Quelque chose en eux était d'accord. Et les pharisiens, ils ont bien compris. Les pharisiens leur répliquèrent: est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. C'est terrible ça. Chaque fois qu'il y a une hiérarchie spirituelle, ça finit toujours comme ça. Ça, c'est pourquoi Jésus a enseigné ses disciples à laver les pieds les uns les autres et il a dit: Le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Ça, c'est pourquoi aussi il a dit que si quelqu'un veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. C'est moche. Dieu n'est pas pour les hiérarchies comme ça, où les gens sont méprisés. Il est venu pour sauver, pas pour mépriser. Et Nicodème, qui était venu précédemment vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi juge-t-elle un homme avant qu'on l'ait entendu et qu'on sache ce qu'il a fait? Au moins, il y a quelqu'un qui parle de bon sens, mais ça suffit pas. Ils lui répondirent, serais-tu toi aussi de la Galilée? Cherche bien et tu verras que de la Galilée, il ne sort pas de prophète. Alors, ça c'est pour faire taire Nicodème. Or, il y a un certain prophète qui s'appelle Jonas, qui vient de Galilée. Et il est intéressant que Jésus parlait de Jonas en utilisant Jonas comme l'exemple de sa résurrection. Ah oui, Jonas venait de Galilée. Et que c'est dérangeant cette petite fée-là. Il y avait aussi Néum. Il venait de la Galilée. En fait, finalement, il y avait pas mal de prophètes qui venaient de la région du Nord. Et si ce n'était pas tout, est-ce qu'il n'y a pas aussi un passage en Ésaïe qui parle de la lumière qui paraît dans le Nord, qui donne la lumière à ceux qui étaient dans les ténèbres? Alors que là, ils ignorent tout. Et ce qui est beau avec Jésus, sa puissante parole, comme il dit en Jérémie 23, 29, que ma parole est comme un feu, il n'était comme le marteau qui brise le roc. Puissante parole de Jésus, ça touche les gens et ça change la nature humaine pour qu'un homme comme Nicodème, qui était trop prudent, trop heureux, qui se lève maintenant. Il dit quelque chose. Ça, c'était un acte courageux qu'il a fait. Il était réprimé aussi vite. Mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être il est rentré chez lui et était un peu déçu. Parce que il n'a dit que deux, trois choses et puis tout le monde se tournait contre lui. Et c'est ça ce qui se passe souvent. Pour ceux qui se lèvent, même pour dire ne serait-ce qu'un mot. Et puis, les gens se tournent violemment contre lui. Est-ce qu'il faut perdre l'espoir? Est-ce qu'il faut le considérer comme un échec? Nous avons ce verset, Matthieu 5, verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédé. Il y a des raisons pour se réjouir face à ces persécutions, face à ces réprimandes. Car c'est ainsi qu'ils ont traité les prophètes, c'est ainsi qu'ils ont traité Nicodème, et c'est ainsi qu'ils ont traité Jésus. Et peut-être la récompense n'est pas en ce moment. Mais Dieu n'oublie jamais. Il est fidèle. Il voit votre travail. Il voit votre souffrance. Et il ne manquera pas à accomplir, même au-delà de ce que nous pouvons imaginer, le jour où nous serons avec lui.